Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur.
Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition des Dossiers de Comaguerre. Merci à Sidi d'être à nouveau à mes côtés pour ces longues soirées radiophoniques qui se termineront donc, vous le savez, à 21h30. Et ce soir, je vais aborder un sujet délicat, non pas qu'il soit délicat en soi, mais comment parler tranquillement et en étant compris par les auditeurs de Radio Galère qui, j'imagine, n'ont pas de portefeuille en bourse, comme on parlait d'un personnage qui est donc un grand bourgeois capitaliste français qui s'appelle Vincent Bolloré, quand on n'a pas les codes de lecture de ce monde-là. Alors les codes bourgeois, les codes boursiers, les cotations, les filiales, les holdings, etc., ça devient assez délicat. Et en fait, on s'aperçoit, quand on fait des recherches comme j'ai fait, que le gros de l'information qu'il y a sur ce personnage et ses activités capitaliste se trouve dans la presse boursière ou dans la presse financière, c'est-à-dire la presse que la très grande majorité d'entre vous ne lit pas et qui de toute façon nécessite pour sa lecture une formation particulière qui n'est pas distribuée dans les écoles. Et donc il y a une espèce d'opacité sur qu'est-ce que tout ça cache. Alors ça cache certainement des choses, on va essayer de faire un peu de lumière là-dessus, mais on va essayer aussi de savoir quelle place occupe ce personnage, donc qui est aujourd'hui un des quelques milliardaires français, pas le plus grand, loin s'en faut, on compte que c'est 10 fois moins, il a 10 fois moins de milliards que n'en a Bernard Arnault, qui est très très connu, mais là n'est pas tellement le problème. C'est comment on en arrive à être là où il est, à occuper la place qu'il est dans la société bourgeoise capitaliste dans laquelle nous nous trouvons. Bon. Alors, première donnée essentielle, Vincent Bolloré est né en 1952. Donc, vous voyez l'âge qu'il a. Il avait décidé d'arrêter toute activité professionnelle quand il aurait 70 ans, c'est-à-dire en 2022. Il l'a fait sans le faire. Et vous allez voir qu'effectivement, il ne perd pas tout à fait son temps puisqu'on parle encore beaucoup de lui. Mais qui est-il ? Bon, c'est d'abord, alors on va le dire, il y a la dimension, c'est un Breton d'une famille grande bourgeoise, catholique, pratiquant à ce qu'on dit, il paraît qu'il va se confesser même, ou qu'il va communier. Non, alors, il y a une petite nuance, enfin, ceux qui connaissent ça, puisqu'il en reste peut-être dans les auditeurs, entre communier, c'est aller donc participer à la messe, et confesser, c'est aller dans le confessionnal pour dire les péchés qu'on a fait au curé qui est là derrière le rideau. Alors, il paraît qu'il ne se confesse pas, mais par contre, il semble qu'il communie. Bon, donc, c'est un catholique avec une certaine pratique du catholicisme, prenons-le comme tel. Mais quand j'ai dit ça, j'ai rien dit parce que je ne l'ai pas sorti du lot. Or, je le sors du lot tout de suite parce que, en fait, il est le héritier d'une famille qui, quand il arrive à l'âge à sa naissance et ensuite à l'âge de se mettre au travail, il est quelqu'un qui a vu ce que c'était qu'une famille bourgeoise riche. Et par exemple, si je vous dis qu'il a fait il avait des visites dans le manoir de ses parents en Bretagne, et que par exemple, il arrivait que le jeune Vincent Bolloré, quand il était petit, soit sur les genoux de Georges Pompidou. Parce que Georges Pompidou venait au manoir, invité par le papa de Vincent Bolloré, jouer avec les enfants. Et donc, voilà, ça faisait partie de ses loisirs. Il était normal qu'un président de la République ou un premier ministre de l'époque, là, il était président de la République, vienne chez M. Bolloré père. Et puis, c'était pas le seul. Il faut savoir que pendant toute sa carrière, M. Bolloré a reçu tous les présidents de la République en exercice dans sa maison, dans son petit château de Bretagne. Bon, donc c'est ça son monde. Son monde, c'est ça, c'est pas un autre monde. Il a été habitué à voir des gens comme ça. Et donc il a commencé, et c'est pour ça que je parle de Georges Pompidou parmi les premiers les visiteurs qu'il a. Voilà. Donc on n'a pas la même vision du monde selon qu'on a son oncle de province qui vient et qui est, je sais pas quoi, planteur de pommes de terre, ou qu'on a M. Pompidou qui vient jouer avec vous au salon le dimanche. C'est pas tout à fait la même chose. Bon. Et ça, c'est produit sous toutes les présidences de la République française. Et il faut bien voir que nous sommes dans une République bourgeoise et qu'un grand bourgeois qui a de l'argent et qui a de l'entre-genre et qui est un espèce de milliardaire avec plus ou moins de haut et de bas dans sa fortune, il fait partie du monde politique au niveau le plus élevé. C'est-à-dire, il fait partie des gens que le président de la République ou le Premier ministre honore de ses visites. Les premiers ministres sont tous venus, mais Hollande est venu, Valls est venu, enfin, il a reçu tout le monde dans son château, dans son manoir, même pas un château. Donc ça vous pose dans la société. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu, quand il arrive là, donc dans cette famille, avec cet entre-gens, avec cette société-là, il n'y a pas de surprise sur les gens du pouvoir, il les connaît, à la limite il peut les tutoyer, on fait des blagues ensemble. Voilà, c'est un bourgeois à l'aise dans la bourgeoisie, c'est un bourgeois qui a de l'argent, qui est à l'aise avec les gens qui ont de l'argent, et donc c'est un monde que nous ne connaissons pas, mais dans lequel eux se connaissent bien, parce qu'ils ne sont pas très très nombreux, simplement ils sont importants parce que c'est eux qui ont le pouvoir. D'un côté le pouvoir de l'économie, de l'autre côté le pouvoir politique. Et c'est ça qui explique mieux l'aventure de Vincent Bolloré. Alors pourquoi Pompidou vient le tout premier? C'est parce qu'en fait il vient d'être élu président de la République, Pompidou, après le départ de De Gaulle, et qu'il vient chez les Bolloré parce que dans la famille des Bolloré, donc dans la génération d'avant Vincent Bolloré, il y a deux résistants. Donc effectivement, on est d'un gaulliste qui vient honorer un résistant. Ça veut dire, alors il faut bien l'expliquer, la résistance en nombre de personnes qui ont participé à la résistance sur le territoire national, c'est majoritairement des communistes. Mais là, le grand-père de Vincent Bolloré n'est pas un communiste, il fait partie des résistants patriotes, donc des bourgeois qui ont rallié le gaullisme en 1940, ils n'étaient pas très très nombreux d'ailleurs, et qui ont combattu dans les rangs de la France libre, mais qui n'étaient pas pour autant des communistes et qui ne l'ont jamais été, mais qui étaient derrière De Gaulle. Donc c'est là qu'il est là-dedans, et donc le grand-père a été donc dans les combattants de la France libre, et il a été de ce petit commando, alors c'est peu connu, sauf pour les gens qui se passionnent pour l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, dans le débarquement en Normandie. Le fameux débarquement, vous savez, le 6 juin 1944, etc. Il n'y a pratiquement pas de Français. Vous savez qu'en gros, les Américains ne voulaient pas que les Français participent au débarquement. Ils voulaient démontrer que c'était les Américains qui avaient libéré la France. Bon, c'était évidemment un gros mensonge, puisque le gros du poids de la Deuxième Guerre mondiale et de l'élimination du régime nazi a été porté par l'Union soviétique. Bon, ça c'est connu, on essaye de nous le faire oublier, mais ça c'est connu. Et donc, la position des Américains et de Churchill, c'est de dire « Non, non, il ne faut pas qu'il y ait de Français dans le débarquement en Normandie, les Français n'ont rien fait ». Y compris ceux qui étaient résistants. Et donc, le gros des Français qui ont participé à la libération du territoire national, c'est ceux qui ont débarqué en Provence au mois de août 1945, donc après le débarquement en Normandie. Mais il se trouve qu'il y a un petit commando de Français de la France libre, qu'on appelle le commando Kieffer, qui va être le premier commando parachuté sur la côte normande, et donc qui va contenir un ancêtre de Bolloré dans ses rangs. Et donc, ça justifie effectivement que Pompidou, président gaulliste, vienne saluer cette famille bourgeoise qui a participé, derrière le général de Gaulle, à la libération du territoire. Et donc, c'est avec ce genre d'événements dans votre famille, vous vivez déjà dans un monde très très particulier, vous êtes très très proche du pouvoir. Pour lui, avoir un président de la République qui vient dîner à la maison, c'est presque une activité ordinaire, ça peut se reproduire la semaine prochaine ou l'année prochaine, rien de surpris. On est dans, donc, Bolloré n'est pas un personnage qui est issu d'une classe pauvre et qui est devenu un milliardaire, c'est pas du tout ça, c'est un grand bourgeois qui a essayé de le rester et qui est resté très très proche du pouvoir politique. Quand on est donc à cet endroit-là, du dispositif social, donc dans une toute petite couche dont on fait partie dès le début, puisqu'on a les moyens, l'entre-gens, le carnet d'adresse, comme on dit et tout, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il va faire des études, et là où le personnage est intéressant à suivre, c'est qu'il fait des études, il a son bac, et puis en fait, au lieu ensuite de faire des études supérieures, il fait un travail dans une banque que sa famille connaît, il devient donc cadre dans une banque. Donc vous voyez, à 18 ans, au lieu d'aller à l'université, etc., ou faire des concours pour les grandes écoles, il s'inscrit, donc il travaille dans une banque. Et en fait, il va quand même passer un diplôme de droit en cours du soir à l'université de Nanterre. Alors, c'est assez amusant de voir un monsieur donc, qui a déjà une fortune derrière lui, une famille qui a de l'argent, qui travaille tout de suite dans la banque, qui ne s'intéresse pas au diplôme, comme si pour lui, le diplôme, ça valait pas, c'était pas très très intéressant. Et en fait, ce n'est pas très très intéressant, parce que quand on est arrivé à ce niveau-là de la classe bourgeoise, c'est-à-dire dans la toute petite couche, ce n'est pas 1%, c'est même 0,1% de la société française, on n'a pas besoin d'accumuler des diplômes pour en faire partie. On en fait partie, j'allais dire, naturellement. Et donc, le voilà, donc cadre bancaire. Et sur quoi il va s'appuyer pour travailler? Il va travailler, donc il va faire ce staff, ce travail dans la banque. Et puis il va, au moment où il se met au travail, donc en 52, il est né en 52, donc vers 72-74, il se met au travail. Et sa première opération va être en utilisant les capitaux de sa famille, dont j'expliquerai l'activité, ça va être d'acheter une autre banque. Alors ouais, là aussi, ce n'est pas quelque chose qui arrive à n'importe qui, vous sortez de l'université, « Ah, je m'achète une banque !» Non, ça n'est pas donné à tout le monde, c'est donné à un tout petit nombre de personnages dans la société française. Cette banque s'appelle la banque Rivaud, R-I-V-A-U-D. Qu'est-ce qu'elle fait, cette banque-là? Eh bien, en fait, c'est une banque coloniale. C'est une banque coloniale qui est à la fois la banque du RPR, parce que les partis politiques ont besoin de banques, et puis c'est une banque coloniale, c'est-à-dire qui a acheté des actions dans des sociétés qui exploitent les colonies. Et le gros de l'activité de la banque Rivaud, ça s'effectue non pas particulièrement en Afrique, mais en Indochine. Et qu'est-ce que fait la banque Rivaud en Indochine? Elle fait ce qu'ont fait les colons français, les colons riches, c'est-à-dire elle exploite l'EVA, donc pour faire du caoutchouc, et elle exploite, ça ce sera plutôt en Malaisie, en Indonésie, l'huile de palme. Et donc voilà M. Bolloré qui, il a 25 ans, il est déjà dans l'entreprise de colonisation, de travail d'extraction des matières premières et de faire travailler le pauvre paysan cambodgien, vietnamien, malaisien pour ses plantations à travers cette banque. Et en même temps, il hérite de son père une usine qui était une usine de papier. Je m'arrête là parce que c'est le début de sa carrière industrielle. C'est-à-dire l'argent que sa famille a, elle l'a accumulé dans une activité industrielle. Une activité industrielle du papier. Alors pourquoi le papier? Alors vous savez que le papier, c'est relativement facile à faire. Il suffit de prendre des vieux chiffons ou des morceaux de certains végétaux, de les mélanger et d'en faire une pâte. Et puis avec cette pâte, on fait la pâte à papier et donc après on fait du papier. Et ça, c'était très facile dès l'instant où on a une alimentation en eau régulière. Donc ça se faisait très couramment, même depuis des siècles et des siècles, au bord d'une rivière avec un petit moulin. Et ça se fait en Bretagne, là où la famille est originaire. Et donc au bord d'une petite rivière qui s'appelle l'Audet, O-D-E-T, vers Quimper. Cette famille, donc, qui a commencé, qui a sa fortune depuis déjà plusieurs générations dans la papeterie, puisque c'est le premier Bolloré qui est cité dans l'histoire, a commencé son activité vers 1820. Cette famille a pris sa place dans la papeterie et puis elle s'est aperçue que, comme les places étaient chères et que quand on est dans un système concurrentiel, il faut essayer d'avoir des produits particuliers, de se distinguer des autres concurrents. Et donc, petit à petit, cette entreprise Bolloré Papeterie s'est spécialisée dans un papier particulier qui est le papier à cigarette. Alors, imaginez-vous, on est donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. La cigarette est devenue un produit qui se vend et qui se voit beaucoup. On est témoin, par exemple, toute la production cinématographique de ces années-là, où pratiquement le héros, voire l'héroïne, a toujours une cigarette à la bouche. C'est la façon dont on a compris les tenants et aboutissants ensuite, c'est la façon dont les grandes entreprises américaines, en particulier du tabac, lancent le marché du tabac. C'est-à-dire, on fabrique des films, où il y a une histoire, bien entendu, ça c'est le rôle d'Hollywood, mais où l'acteur, au moment donné, alors je pense par exemple à Humphrey Bogart ou à d'autres, à un moment donné, a une cigarette à la bouche. Et c'est comme ça que l'idée de la consommation du tabac se répand. Et ça se répand de la même façon en France, pour la même raison. Le cinéma y est un peu pour moi, mais ça se répand. Et donc, la société Bolloré se spécialise dans le papier à cigarette. Et qui va lui acheter le papier à cigarette ? Ben, c'est très simple et c'est très très facile, puisque vous savez qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des nationalisations d'un certain nombre d'entreprises importantes pour le pays et que la France a nationalisé la production du tabac et des allumettes dans une entreprise qu'on appelle la CEITA, Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, CEITA. Entreprise qui sera dénationalisée plus tard, mais qui là est nationalisée. C'est-à-dire qu'on a un seul producteur qui fait toutes les cigarettes, les brunes, les fameuses brunes françaises, la gitane, la gauloise et quelques autres moins connues, qui fabrique toutes les allumettes, donc qui est très très puissante, puisqu'elle a le monopole du marché français. Et comme la société de Bolloré a le monopole de la fourniture du papier à cigarettes, bon, tout va bien. Tout va bien, puisque vous avez un seul acheteur, vous êtes le seul producteur, donc vous faites vos prix. Il ne faut pas trop quand même exagérer sur les prix, il ne faut pas assassiner la CEITA, mais enfin vous avez une position extrêmement confortable, pas de concurrent et un client qui est le seul client possible et qui est totalement à votre disposition. Comment ne pas être riche dans ces conditions-là ? Ben voilà, en gros, les conditions sont là, c'est-à-dire que, et on va retrouver ça dans la totalité du parcours de Vincent Bolloré, être toujours à l'endroit où la politique de l'État va lui faciliter les choses. En particulier, bon, la guerre d'Indochine lui aurait facilité les choses, puisqu'elle lui a facilité les choses, puisqu'elle a permis de continuer dans des conditions difficiles l'exploitation des EVA pour le caoutchouc. Et puis, elle va lui faciliter les choses sur le reste du territoire colonial, à savoir l'Afrique. Donc voilà, donc un premier cadre, le cadre de l'industrie locale avec une spécialité, un client unique, l'État qui est derrière ça, c'est parfait, on est à l'abri, pas de concurrence, un seul acheteur, parfait. La colonie, c'est pareil, on y fait ce qu'on veut, il n'y a pas de concurrent, puisque ne peuvent fournir la colonie que les entreprises de la colonisation, donc ne travaillent en Indochine et ne travaillent déjà en Afrique francophone que des entreprises françaises. C'est ça la colonisation, c'est le monopole des entreprises françaises dans un territoire qui n'est pas français. Après, le reste, l'État va faire ce qu'il faut, faire la police, tuer des gens à Tiaroy, etc. Tout ça, c'est autre chose. Mais le fait, du point de vue du capitaliste bourgeois, qu'est Vincent Bolloré, travailler dans les colonies, c'est travailler très tranquillement. Travailler à un endroit où il n'y aura pas de concurrents étrangers qui viendront prendre le marché et où le gouvernement local vous protégera. Même s'il y a décolonisation, c'est-à-dire que le phénomène sur lequel j'insiste, qui est vrai jusqu'à la décolonisation officielle dans les années 60 en Afrique francophone, se poursuit après, puisqu'au fond, les facilités que peut avoir une entreprise comme celle de Bolloré sur le territoire du Sénégal, du Gabon ou de la Côte d'Ivoire vont continuer après les indépendances formelles de 1960. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la République se sera arrangée pour que n'arrive à la tête de ces nouveaux pays soi-disant indépendants que des pays qui ne lui sont pas hostiles. On va même jusqu'au cas, le plus connu, c'est celui de Félix Houphouët-Boigny, qui a d'abord été ministre de la 4e République française jusqu'en 1958 et qui se retrouve président d'un État indépendant en 1960 parce que c'est lui qu'on a choisi, puisque c'est lui qui est le plus conforme aux objectifs maintenus du colonisateur. Garder l'Afrique francophone dans le giron français. Et donc, on peut à ce moment-là, quand on est Bolloré, dire, mais là, dans le fond, il y a l'histoire du tabac qui a marché. Alors, ce qui va se continuer, c'est très très intéressant à noter, c'est qu'à un moment donné, là on est beaucoup plus tard dans le temps, au moment où la France se met à dénationaliser, donc après le gouvernement Chirac de 85, Rocard, etc., et toute la suite, et la présidence Chirac, où donc la CETA va être démantelée, et il n'y aura plus de monopole du tabac et des allumettes en France, ça aura été totalement privatisé. À ce moment-là, que fait Bolloré? Ben c'est très simple, il dit, eh ben la partie qui a été donc privatisée, j'ai plus aucun pouvoir dessus, j'ai les concurrents américains, je vends mon entreprise aux Américains. L'entreprise de papier à cigarettes que j'avais, je la vends aux Américains. Alors il reste toujours encore aujourd'hui une usine qui appartenait au groupe Bolloré à Perpignan, où on fabrique encore du papier à cigarettes, mais le patron est aux États-Unis et le capital est aux États-Unis. Et ce que fait Bolloré à ce moment-là, ben, c'est le réflexe colonial, c'est tout simple. Il dit, mais par contre, à partir de 60, que ce soit au CNJ, à Dakar, à Abidjan, partout, on a encore un gouvernement qui est à la disposition, qui est à la disposition, j'allais dire, qui rend le salut à la République française tous les matins. Et donc là, ce qu'obtient Bolloré, c'est le monopole. Oui, un souci ? Non, non, pardon. C'est le monopole de la fourniture de tabac dans toutes les colonies de l'Afrique francophone avec une filiale de son groupe. Là, où, pareil, la France colonisatrice le protège, il est seul. Et donc, ce qu'il a perdu du côté métropolitain, il l'a regagné dans une position, là aussi, très, très confortable. Il est le seul fournisseur de cigarettes. Y compris même, on lui donne l'autorisation, comme ça, ça évite l'arrivée de ses concurrents américains. Et les concurrents américains laissent faire ou s'accommodent de cette situation. C'est-à-dire, ils vendent non seulement des Gauloises, mais ils vendent aussi des Philip Morris et tout, parce que les Américains disent, ben, puisqu'ils s'occupent de ça, on lui donne ce qu'il faut, et ils vendent toutes les cigarettes. Bon, donc voilà comment la protection coloniale permet de faire de bonnes affaires, sans concurrence, tranquillement, dès l'instant où on a les amis au bon endroit. Et par exemple, on va retrouver dans le conseil d'administration des entreprises de Bolloré un monsieur qui sera ministre des affaires africaines, qui s'appelle Michel Roussin. Je ne sais pas si vous connaissez le nom, ça vous dit peut-être quelque chose. Michel Roussin, qui était en même temps un agent des services secrets. Donc quand vous avez au conseil d'administration de vos entreprises un agent des services secrets, ça veut dire que l'État vous protège, il ne vous arrivera rien du tout. Hein. Vous pourrez faire vos petites affaires, vous pourrez pleurer si on vous a fait un problème et tout, vous êtes tout à fait à l'abri. C'est un grand, grand bonheur. Donc vous voyez, ce système colonial profite à Bolloré, mais il y est comme chez lui, comme un poisson dans l'eau. Il n'est pas contre du tout, puisqu'il n'a jamais tenu un propos anticolonialiste. Ce n'est pas un ami de Frantz Fanon, Vincent Bolloré. Et donc les affaires marchent parce qu'il a la protection de l'État français. L'État colonial, donc il fait une politique coloniale. Et puis quand il va avoir beaucoup d'argent, il va se dire après tout, les cigarettes c'est bien, mais l'Afrique c'est intéressant puisque j'y fais ce que je veux dans les colonies françaises. Et donc il va mettre la main avec de l'argent qu'il aura acquis ici et là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la façon dont il se procure de l'argent, en rachetant ici ou en revendant une banque qu'il a contrôlée, par exemple la banque Rivaux que je citais tout à l'heure, et il va racheter des entreprises de transport françaises qui sont les seules à desservir les colonies africaines. Et j'en vais en citer deux qui sont connus, les chargeurs réunis et la compagnie Delmas Vielleux. Et il va acheter aussi une autre société qui fait la distribution, qui s'appelle la SCAC. La SCAC qui fait... Alors, vous avez donc d'un côté les bateaux des chargeurs réunis et de l'armateur Tristan Vielleux, Delmas Vielleux. Et puis vous avez, quand vous déposez la marchandise à quai à Abidjan ou à Dakar, il y a les camions de la SCAC qui viennent la livrer dans les autres villes du pays, dans les commerces, etc. Donc vous êtes le maître du commerce, puisque tous les produits qui arrivent de France, il y a le monopole du commerce extérieur. Une colonie, ça veut dire que c'est l'endroit où les Anglais, les Américains, les Allemands, les Italiens ne peuvent pas vendre. Il n'y a que les entreprises françaises qui vendent. Donc, les entreprises françaises vendent, elles ont le marché, et vous vous assurez le transport de toute la marchandise française qui va aller se déverser dans ces territoires coloniaux. Et bien entendu, dans le voyage de retour, c'est vous qui allez être le seul transporteur de toutes les exportations de ces pays-là. C'est-à-dire tout le cacao ivoirien, toutes les arachides sénégalaises vont passer dans vos bateaux. Alors quand je dis vos bateaux, ben c'est plus au début, c'est les bateaux de les chargeurs réunis et les bateaux de Delmas-Villejeu. Et puis un beau matin, et c'est là qu'on a l'habileté financière de Vincent Bolloré, un beau matin, c'est Vincent Bolloré qui les rachète. Alors ça ne se passe pas tout le temps très très bien, parce que les patrons qui avaient monté ces entreprises-là se voient dessaisis par des mécanismes boursiers sur lesquels je ne veux pas m'étendre, mais qui existent, et dont Vincent Bolloré, il faut le reconnaître, est un as, c'est-à-dire il sait monter des opérations de rachat très discrètement en rentrant dans le capital d'une entreprise petit à petit, sans se montrer, en y faisant rentrer un certain nombre d'autres des filiales de son groupe, etc., pour tout d'un coup arriver un jour de conseil d'administration où l'adversaire, je pense à Tristan Vielgeu qui en a beaucoup souffert, le PDG d'Elmas Vielgeu, qui un beau jour s'est trouvé avec un Vincent Bolloré qui est arrivé au conseil d'administration et il avait 25% des parts et il était majoritaire. Enfin, il était le seul à pouvoir décider, le reste était éparpillé. Alors ça, je pense que ça, c'est des douleurs bourgeoises. Il ne vous arrivera pas ça, vous allez perdre une indemnité de chômage ou un poste ici ou là. Mais dans ces milieux-là, vous allez perdre une entreprise parce qu'il y a un plus malin que vous qui s'est introduit petit à petit par la porte de derrière, par la fenêtre, si on ne l'a pas laissé rentrer par la porte, par des mécanismes qui existent, qui sont légaux. Il n'y a même pas d'illégalité. Une question de savoir aller au bon moment, au bon endroit, dans le respect des lois, et puis tout d'un coup apparaître en ayant rassemblé les éléments, dire « c'est moi le patron aujourd'hui, tu peux partir ». Alors ça laisse des traces, mais au fond, ça laisse des traces entre des gens qui, pour la plupart d'entre eux, retombent sur leurs pieds. J'ai pas connaissance de suicide de PDG de boîte rachetée par Bolloré qui n'aurait pas supporté d'être mis à la porte. Ça n'existe pas parce que, par ailleurs, ils avaient sans doute pris leurs précautions, investi dans d'autres secteurs où ils avaient un patrimoine personnel. Donc ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et à telle enseigne que je vais faire référence à un livre qui a été publié, je crois l'avoir là, un livre qui a été publié par un journaliste récemment où il explique dans un chapitre qui s'appelle « Les flibustiers » qu'il s'est créé une espèce de club des milliardaires français qui se réunit assez régulièrement et où tous ces gens qui sont chacun propriétaires d'énormes sociétés et qui ont d'énormes moyens dans un club de milliardaires parlent entre eux et au fond ils arrivent bien qu'ils se soient fait des coups pendables, genre, j'ai racheté ton entreprise, je t'avais pas prévenu, je t'ai fait un coup tordu, etc. Mais finalement se supportent parce qu'ils savent que tout ça se règle entre gens bien élevés et qu'on est entre milliardaires et c'est pas parce qu'il y en a un qui a pris 3 milliards à l'autre ou 5 milliards. C'est pas à l'échelle, ils ont beaucoup plus que ça, et on se remet des mauvais coups que l'un ou l'autre a pu faire. Il s'appelle ça, alors ce club s'appelle, puisqu'il a été nommé comme ça, il y a même eu un livre, je le cite, s'appelle « Les grands fauves ». Écoutez bien le titre, « Les grands fauves ». Il s'agit de gens qui sont capables de mordre tout ce qui se présente et qui, alors à l'occasion, quand ils mordent le voisin, ben ils mordent le voisin, mais le voisin en a fait d'autres et ils savent à quoi ils s'exposent et ils savent aussi qu'il n'y a pas tellement de risques. Et ces gens-là qui se rencontrent dans ce club des grands fauves, donc qui est animé par le baron de Rothschild de service en France, se retrouvent aussi dans d'autres endroits. Et là, je m'arrête sur une autre caractéristique de cette cette très très grande bourgeoisie, mais qui est très très faible en effectif, la plupart habitent au même endroit. Parce que je vous ai parlé du manoir de Bolloré dans la région de Quimper, je ne vous ai pas parlé, mais je vais le faire, de la Villa Montmorency. Alors écoutez bien, il y a dans un quartier de Paris, le 16e arrondissement, vous en doutez, un périmètre autour de rues qui sont dans les rues de la capitale, qui est totalement clos, avec des gardiens qui circulent, toute la nuit, avec des laissés-passer, etc., où la moindre des maisons qui ont entre 150 et 300 mètres carrés vaut entre 2 et 3 millions de pièces d'euros d'aujourd'hui, hein, et où on trouve là que des gens qui peuvent se payer ce genre d'installation. Alors je vais vous en donner quelques noms. Ça peut bouger parce qu'il y en a qui y vont, puis il y en a qui en sortent. Alors je vous donne quelques noms des habitants, ou plutôt des propriétaires dans la Villa Montmorency. Alors, Isabelle Adjani. Alors, il y en a qui vont et qui viennent, mais Isabelle Adjani y a été. Alain Afflelou, ça vous dit quelque chose, les lunettes, il y est. Le fondateur du groupe Énergie, il y est. Le Tarak Ben Ammar, c'est un homme d'affaires tunisien. Bolloré, bien sûr. Carole Bouquet, c'est une actrice, vous la connaissez. Michel Sicurel, c'est un banquier. Laurent Dassault, ça vous dit quelque chose, Dassault, il habite là aussi. Patrick Loiseau, c'était l'ancien compagnon d'Anthony Perkins. Donc très très riche aussi, il habite là. Depardieu, bien entendu. Céline Dion, Mylène Farmer, Arnaud Lagardère, alors le fameux Lagardère, fils de son père, Arnaud Lagardère. Qui a encore Xavier Niel, c'est Free. Hein, voilà. Nicolas Sarkozy, alors qui n'y est plus, mais qui y a été. Qui y a d'autres encore? Sylvie Vartan, Rick Azaray. Et un homme d'affaires qui est encore, d'après ce que je sais, moi je ne suis pas très au courant, le président du PSG qui s'appelle Nasser Al-Khelaifi. Voilà. Bon, et puis quelques autres, parce que il y en a qui vont, puis il y en a qui s'en vont. Sarkozy n'y habite plus, par exemple, pour l'instant, mais il y a habité. Et donc ça veut dire que ces gens-là, qui habitent les uns à côté des autres dans un milieu clos où personne d'autre ne vient, peuvent, en allant le matin prendre leur voiture pour sortir, se dire bonjour, s'échanger des informations, y compris faire un peu de politique. Et vous étonnerez pas si je vous rappelle, parce que vous avez peut-être gardé le souvenir frais de la chose, que le soir de la victoire de Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles de 2007, on apprend qu'il y a eu un fameux repas au Fouquet's, ce grand restaurant des Champs-Élysées, et que le lendemain, M. Nicolas Sarkozy est parti se reposer de ses émotions sur le yacht de Vincent Bolloré. Parce que de toute façon, ils se croisaient tous les matins, hein. Et donc, ils étaient copains. Hein, parce qu'on peut être copains dans les gens comme ça, on ne se fait pas de misère. Lui, il fait la politique, moi, je fais du business, mais on s'entend très bien, on se tape sur l'épaule, et puis tout va bien. Hein. Voilà, c'est ça. Enfin, je veux faire pénétrer ces idées-là, parce que c'est comme ça qu'un pays capitaliste comme le nôtre est gouverné. Alors, bien entendu, on va se passionner pour les élections législatives, etc. Et en fait, le principal des décisions, les orientations et les grands choix, ils s'élaborent dans des lieux comme la Villa Montmorency. Parce que, bien entendu, il se serre la main le matin en partant, mais s'il dit viens boire un coup, j'ai quelque chose à t'expliquer, hein, et on va racheter ci, et on va faire la guerre à tel, et on va casser la figure à Kadhafi, ça se dit là, dans ces endroits-là. Après, la mise en musique gouvernementale, parlementaire, c'est la suite des événements. Donc ceux qui ont décidé en disant on va casser la figure à Kadhafi vont dire maintenant, Sarkozy, débrouille-toi avec ça, c'est décidé parce que nous, on a intérêt à ce que Kadhafi se casse la figure, parce qu'il nous empêche de travailler. Hein, parce que Kadhafi avait la mauvaise idée de nationaliser des biens. Ça ne se faisait pas, ce n'était pas poli du tout, du tout, du tout. Bon. Donc j'en reviens à ma partie coloniale, donc les transports. Hein, les transports, donc chargeurs réunis, Delmas-Vieljeu, SCAC, donc Bolloré est le maître des transports vers les colonies françaises. Et puis il y a un moment qui arrive un peu plus tard où il va se dire « Ah, maintenant il faudrait faire autre chose parce que la pression coloniale diminue » et vous allez voir qu'en plus elle a diminué encore beaucoup plus ces dernières années. C'est-à-dire que quand vous savez que Bolloré, à un moment donné, va être le patron du chemin de fer qui va d'Abidjan à Ouagadougou, qui de Ouagadougou va au Niger, et puis ensuite il y a une autre voie ferrée qui redescend au Bénin, à Cotonou, c'est-à-dire, il est le maître des transports ferroviaires sur la... Alors, quand vous savez qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, le Niger et le Mali refusent que ce soit la France qui fasse la loi chez eux, bon, la voie ferrée de Bolloré, elle n'a plus beaucoup d'intérêt, et de toute façon, ils n'en veulent pas. Hein. À la rigueur, ils verront s'ils peuvent la racheter, la nationaliser et tout, mais sûrement, ils n'en veulent pas. Donc, ils ne veulent pas que ce soit un Français colonisateur, colonialiste, qui ait la maîtrise des transports ferroviaires. On verra la suite, mais on en est là. Et quand on lit des documents concernant Bolloré, on voit bien qui sont ses amis dans les chefs d'État africains, parce qu'il les voit. Pour un chef d'État africain dépendant comme sont les Houphouët-Boigny et les autres, les patrons français sont des gens que vous accueillez beaucoup plus que vos propres citoyens. On va dans le même hôtel Ivoire à Abidjan, on va dans le même hôtel à Dakar, etc. On est entre soi, toujours entre gens riches ou entre gens dépendants des gens riches. Qui sont les amis, alors c'est dans des documents qu'on peut trouver, qui sont faciles à trouver, qui sont les amis de Bolloré dans cette Afrique-là? C'est effectivement Alassane Ouattara, Issoufou, l'ancien président du Niger, et d'autres, voilà, tout comme ça. Et donc, en fait, il est, si Ouattara, si Bolloré a un problème dans un pays d'Afrique, parce qu'il y a un problème, je sais pas quoi, une grève sur son chemin de fer ou une grève dans le port de Cotonou, ben, il va voir directement le président de la République, il me dit, il faut arrêter ça, collègue. Et l'autre dit, mais à ta disposition, mon cher, mais je t'en prie, je vais m'en occuper. Voilà. Et je vais m'en occuper, y compris tu me donneras quelques gendarmes, tu demanderas à Paris d'envoyer quelques gendarmes et on va terroriser ces grévistes. Hein. C'est comme ça que ça se passe, c'est tellement simple. On est entre soi, on est entre dirigeants. Et le peuple n'importe pas beaucoup. Ça, c'est la grande période coloniale qui, on le voit, et ça continue encore ces dernières années, est en train vraiment de s'affaiblir. Et là, je pense que Bolloré, il a très très bien compris. Et à un moment donné, l'idée va lui venir de s'occuper d'autre chose. Parce que c'est bien joli les transports, mais il y a d'abord un début de concurrence internationale, il y a un affaiblissement de la position coloniale de la France, qui est moins riche, qui a moins de capacités. Et donc il se dit, dans quoi je vais aller ? Alors dans quoi je vais aller ? Ben, il va tenter d'aller dans le secteur qu'on appelle de la culture en général. Alors je vais mettre des mots sous ce terme-là pour être un peu plus précis. Alors qu'est-ce que c'est que la culture ? Ben, y a différentes formes, parce qu'il y a des cultures pour certains personnages et pour certains niveaux, et puis il y a toutes les formes de culture. Alors ça peut être des chaînes de télévision, ça peut être des chaînes de télévision, donc des gratuites ou des payantes, ça peut être des journaux, des hebdomadaires par exemple, comme l'Express, le Nouvel Obs, etc. Ça peut être des livres. Et dans les livres, il y a un très très grand choix, puisqu'on peut à la fois faire des dictionnaires, mais on peut à la fois faire des romans policiers, on peut faire des ouvrages scientifiques. Enfin, il y a une grande grande gamme de produits avec des clientèles très très différentes et très très particulières. Et donc, il va se dire que le temps est venu de passer à ce type d'activité. Et il va le faire très remarquablement en prenant deux positions. Alors, je ne rentre pas dans les détails historiques, mais c'est intéressant de souvenir. En mettant la main, d'une part, principalement sur le groupe Hachette. Alors, le groupe Hachette, c'est toute une série de livres, d'éditeurs. Et donc, il va mettre la main dessus et devenir donc le premier patron de l'édition française. Il aura juste une petite difficulté, et c'est là qu'on voit que les temps ont un peu changé, c'est-à-dire qu'il va se trouver affronté à la réglementation de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne, inspirée par ça, par l'expérience libérale des États-Unis, a une disposition antitrust, c'est-à-dire qu'il faut éviter qu'à un moment donné, il y ait une seule entreprise qui soit la seule sur un marché donné. Bon. Position qui n'existait pas, puisque la France coloniale permettait d'être en position de monopole et ça posait aucun problème de droit. Alors avec l'Union européenne, c'est un peu moins simple. Et donc quand Bolloré arrive en disant « je rachète, tout achète », la Commission européenne dit « ah non, non, c'est pas possible, il va falloir couper en deux ». Et alors on discute avec le numéro 2, enfin celui qui va avoir la deuxième moitié, qui est un peu plus petite, hein, et qui est un autre milliardaire, qui a fait une carrière à la Bolloré, mais qui est un milliardaire tchèque, qui s'appelle M. Kneminski. Et donc, il va créer une entreprise qui s'appelle Editis. Et donc, M. Kneminski, le milliardaire tchèque, aura, lui, une partie de l'édition française, et M. Bolloré, la majorité de l'édition française. M. Kneminski, j'essaye de ne pas écorcher son nom, a beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, je ne connais pas le détail de sa carrière en République tchèque, mais il faut savoir qui vient de racheter, l'année dernière, Casino. Donc, vous avez tous entendu parler du rachat de Casino. Et en gros, c'est lui qui est derrière Intermarché, qui est le patron d'Intermarché. Et donc, c'est lui qui a racheté Casino. Donc, il a mis le paquet de milliards qu'il fallait sur la table, il a racheté Casino. Voilà. Donc, là aussi, c'est un milliardaire d'une autre source, mais tout à fait à l'image de Bolloré. Et voilà donc mon Bolloré qui devient, à travers Hachette, qui devient le grand, le numéro un de l'édition en France. Avec tout, alors je vais vous donner des... Il y a tout dans les éditions Bolloré. Je vais vous donner quelques idées de noms d'éditeurs pour que vous vous rendiez compte. Marabout, Larousse, Armand Collin, Jean-Claude Lattès, Attier, Grasset, Fayard, Dunod, Calmann-Lévy, Milunet, Hachette Jeunesse, le livre de poche, etc. Bon, tout est comme ça. Donc, il y a tous les styles de littérature, toutes les clientèles de littérature, tout ça dans le même groupe Hachette. Et puis, l'autre, le tchèque, le milliardaire tchèque, il a le reste. Il a le reste. C'est pas mal non plus. Hein, c'est pas mal non plus. Je vais vous donner des indications. Alors, n'ayez pas... Il y a des gens qui prennent peur. N'ayez pas peur, parce que ça veut dire est-ce que M. Bolloré va s'occuper de la qualité de la littérature canular ? Mais non, pas du tout, parce que son problème, c'est pas tellement la qualité. Lui, d'abord, il lit ce qu'il a envie de lire. Il paraît qu'il lit beaucoup. Mais lui, ce qui préoccupe, c'est de vendre. M. Bolloré est un capitaliste. Donc, si les livres se vendent bien, même si c'est des livres qui ne correspondent, dans lesquels il trouvera des prises de position qui ne lui conviennent pas, ça s'arrêtera là, puisque de toute façon, les ouvrages se vendront. Et l'important, c'est le chiffre d'affaires. L'important, c'est le bénéfice en fin d'année. Et donc, peu importe si un auteur, de son point de vue, n'est pas conforme, il ne va pas se livrer à une censure du contenu, puisque il y a une clientèle. Donc, il respecte la clientèle, puisque la clientèle, c'est son bénéfice. Et de l'autre côté, les éditions Editis, ils auront, c'est pas mal non plus, hein, ils auront le Robert, Courrier International, La Découverte, les éditions Perrin, Bordas, Nathan, vous voyez, là aussi tout le monde joue. Alors dans les manuels scolaires, dans les manuels scientifiques, ouais, bon, on a tout, chacun s'est réparti. Alors le chiffre d'affaires, je vous donne ça, de Hachette aujourd'hui, c'est de 2,5 milliards d'euros, et le chiffre d'affaires de Editis, c'est un peu plus petit, c'est autour du milliard d'euros, c'est pas mal non plus. Alors, on gagne pas énormément, mais on gagne bien, surtout quand on est en position de monopole. Et l'intérêt d'avoir un groupement comme Hachette, là on revient à la logique Bolloré, c'est-à-dire que quand vous êtes et vous avez des traditions dans le papier, quand vous avez tous ces éditeurs qui sont à vous, et bien tous les éditeurs, ils achètent le papier au même endroit. Évidemment. Hein, pourquoi se compliquer la vie ? Et donc, on ne leur laisse pas le choix. Le papier, c'est nous qui fournissons. Alors, soit qu'on le fabrique nous-mêmes, soit qu'on l'achète, mais que c'est nous qui sommes les maîtres de la fourniture du papier. Et après tout, que demande un éditeur ? Il demande à avoir du papier pour imprimer ses livres. Et donc, si on lui dit, ben, le papier, ça passe par ici, et c'est temps, il ne discute pas. Il ne discute pas, puisque dans le groupe, on lui a dit que c'était comme ça. Oui. Le système de distribution des livres, c'est pareil. Alors je m'arrête un instant sur le papier, parce que c'est intéressant à savoir. Il faut savoir que le fameux papier Bible, alors vous savez que c'est un papier très très léger, et qui est utilisé pour ceux d'entre vous qui en ont eu entre les mains, qui est utilisé pour les livres de la Pléiade. Bon, le papier Bible, c'est un papier très très particularité, où la maison Bolloré a acquis une spécialité. Et donc, effectivement, le papier Bible, c'est une livraison. Alors, ça fait des Bibles aussi, pour ce qui se vend. Et puis, ça fait toutes les éditions de la Pléiade. Vous voyez, comme quoi on arrive, petit à petit, chaque fois, à se retrouver, à trouver des centres de profit, comme on dit dans le système capitaliste. C'est-à-dire, non seulement je vends des livres, je fais du bénéfice sur les livres, mais en plus, j'ai un monopole de la fourniture du papier chez tous les éditeurs qui sont chez moi. Et donc, chaque fois, j'ai le bénéfice du papier, en plus du bénéfice sur le livre. Comme quoi, le profit engendre le profit, et un profit en amène un autre. Et puis, il va s'attaquer, alors ça c'est l'édition, il va s'attaquer et il va racheter aussi l'agence Havas, c'est-à-dire au monde de la publicité. Alors l'agence Havas a une histoire compliquée, elle a été nationalisée à la fin de la guerre, elle a été ensuite découpée en petits morceaux, mais toujours est-il qu'à un moment donné, il va réussir à mettre la main sur l'agence Havas, c'est-à-dire à devenir une des plus grosses agences de publicité de France. Simplement, il a comme concurrent, qui reste aujourd'hui vrai, Publicis, le numéro 1, qui est dirigé, vous le savez, par la fille de Robert Badinter. Mais il a quand même la main sur la deuxième agence, et puis il a la main sur cette agence, y compris sur les filiales étrangères de cette agence, donc à Londres, aux États-Unis, etc. Voilà un autre monde qu'il découvre, mais au fond, il le découvre toujours avec la même logique consistant à dire « Est-ce que je peux gagner de l'argent en faisant ça ?» Et effectivement, la publicité a pris de plus en plus de place depuis, en gros, la Deuxième Guerre mondiale. Ça existait avant, mais ça a pris une ampleur particulière. Et il n'est plus possible aujourd'hui pour une entreprise de ne pas faire de publicité. Donc les agences de publicité prospèrent. C'est le cas donc de l'agence du groupe Havas comme du groupe Publicis. Et puis, c'est des groupes qui arrivent quand même à avoir une certaine défense de leur territoire national, même si elles ont des ambitions à l'extérieur, et qui ne sont pas encore mangées par des concurrents américains, allemands, etc. À propos d'Allemagne, juste un mot pour dire qu'il y aura des tentatives de groupes allemands très très riches, il y a des groupes très très riches dans les médias en particulier, qui voudront un peu s'aventurer sur le sol français, et là, Bolloré fera ce qu'il faut pour les décourager de venir, avec différentes manœuvres sur lesquelles je ne m'arrête pas, mais sachez qu'il a bien su défendre son territoire, et puis qu'en plus, à l'occasion, il a le soutien du gouvernement français, c'est-à-dire que là, je reviens aussi sur le fait que M. Bolloré voit un président de la République quand il veut, M. Bolloré voit un Premier ministre quand il veut, M. Bolloré est reçu par le ministre en charge soit des transports quand il s'occupe des transports, soit de l'industrie papetière quand il s'occupe des... M. Bolloré rentre où il veut, quand il veut. Et donc défend ses positions, puisqu'au fond, la bourgeoisie française et la République française est une république qui vit sous le régime capitaliste et qu'elle n'est pas faite pour faire des misères aux capitalistes. Il faut bien que nous ayons ça dans la tête quand nous réfléchissons à notre système politique. Notre système politique est effectivement une république où il y a un vote, mais où il y a aussi une classe sociale toute petite. J'insiste, je reviens toujours sur mon exemple de la cité Montmorency, de la villa Montmorency. C'est un tout petit nombre de gens qui, en fait, préparent les décisions, les font avaliser petit à petit et prennent le Parlement pour ce qu'il est, un endroit où on prend son temps, mais on finit toujours par faire passer les législations qu'on veut, ou bien on fait l'usage, on est dans cette situation-là aujourd'hui, du 49-3. Ça, vous avez compris à quel moment la République bourgeoise dit bah, « tant pis pour les parlementaires, je m'assois sur leur vote, peu importe, je fais avancer mes pions ». Et donc, nous voilà M. Bolloré qui s'intéresse donc à la publicité, achat d'Havas, qui s'intéresse donc aux livres, achat et maîtrise du groupe Hachette, premier groupe de l'édition français, et puis qui se met à s'intéresser à la télévision. Alors là, il va lancer d'abord des petites chaînes, comme ça, avec des petits moyens et tout. Et puis, il va tenter un gros coup qui va beaucoup faire parler sur Canal+. Alors, pourquoi un gros coup sur Canal+? Parce que là encore, il est rentré dans le capital petit à petit. Et puis, un beau jour, il arrive à être majoritaire et il fait le ménage. Et il fait le ménage. Alors, les témoignages qu'on a eus de la part des journalistes qui étaient sur place a été qu'il fait le ménage brutalement, le nettoyage brutalement. C'est-à-dire qu'il regarde... Le problème, c'est son approche est très, très claire. Il dit, je viens de regarder les comptes de Canal+. Alors, Canal+, ça marche bien. Il y a les guignols, il y a ci, il y a ça et tout. Mais moi, au niveau des résultats, moi, en tant que propriétaire capitaliste, ça ne me va pas. Ça ne me va pas parce que Canal+ perd de l'argent. Perd de l'argent malgré les abonnements, malgré tout ce que vous savez. Bon. Et donc, dès l'instant où Canal+ perd de l'argent, M. Bolloré n'est pas content. Et donc, petit à petit, il va faire donc, un nettoyage sauvage de la direction de tous les départements de Canal+, un par un, les uns après les autres, et pratiquement toutes les têtes vont tomber. Ce qui peut vous expliquer que dans le milieu journalistique, M. Bolloré est terrorisant. Parce qu'en fait, des gens qui se croyaient très très importants parce qu'ils étaient directeurs d'une chaîne, directeurs de telle émission, responsables de telle émission, et qu'ils étaient populaires et connus, puisqu'on est connu quand on est sur les écrans de télévision, deviennent tout d'un coup des salariés qui ont été mis à la porte brutalement, et comme n'importe quel salarié. Alors, je tempère le propos. Pas tout à fait comme n'importe lequel salarié, puisque M. Bolloré, quand il fait ça, il est méchant, il montre les dents, mais en même temps, il sait qu'il a de l'argent et qu'il va en gagner plus après quand il aura remis l'entreprise en circulation comme il veut. Et donc, il donne de grosses indemnités, de telle façon que ces messieurs, qui sont déjà habitués, qui se sont habitués à de très très gros salaires, à de très très gros salaires quand on est directeur d'une chaîne à la télévision ou directeur responsable d'une émission, ces messieurs-là partent sans trop pleurer et n'en voudront pas. Alors, il y aura quand même une réaction dans le milieu journalistique en disant « Ah oui, mais ce monsieur est brutal. » Mais monsieur, il va dire « Mais moi, je suis à la tête d'une entreprise capitaliste, elle perdait de l'argent, je fais en sorte qu'elle n'en perde plus. » Et effectivement, c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire avec cette mauvaise presse, ce mauvais écho dans le milieu journaliste, puisque c'est des grands journalistes, ou moins des journalistes parmi les mieux payés de la profession, qui ont été mis à la porte, il rétablira l'image en disant « Oui, mais moi, maintenant, j'ai une chaîne qui marche et qui gagne de l'argent, parce que je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour dire qu'il y a telle émission qui est bien ou qui n'est pas bien. Non, non, je suis là pour gagner de l'argent, que les choses soient bien, bien claires. » D'où l'histoire Canal+. Mais on clarifie beaucoup de choses quand on prend cet angle de vue. Alors je voulais vous expliquer comment ça fonctionne la galaxie, puisqu'on parle de la galaxie Bolloré, mais ça fonctionne avec toute une série d'entreprises dont vous ne connaissez pas les noms. Je vais vous en donner quelques-unes, mais enfin, vous n'y retrouverez pas vos petits. C'est-à-dire, c'est pas possible. Si je vous dis la compagnie financière de l'Artois, vous ne connaissez pas, ça n'a rien à voir. Si je vous dis financière de l'Odette, vous ne saurez pas ce que c'est non plus. Il y a des schémas, si vous voulez. Quand on veut faire sur un graphique de la, on pourrait dire la pieuvre Bolloré, c'est un graphique énorme, difficile à lire, parce que il a une toute petite partie, 2% du capital, là il a 25, là il a 5, là, tout ça s'est croisé, puis une chaque société prend des participations dans l'autre, ce qui fait qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'il en tient beaucoup plus que ce qu'on a l'impression, parce qu'il a mis dans un conseil d'administration d'une entreprise où on voit qu'il est, un certain nombre de ses filiales où on ne sait pas qu'il est. Et donc, en fait, tout d'un coup, les masques tombent, et un beau matin, on dit « Ah oui, mais lui, il vote pour Bolloré, lui aussi, il vote pour Bolloré, lui... » Eh bien, on aperçoit que c'était tous des filiales de Bolloré. Mais ça, celui qui est là à la tête n'a pas vu venir, et donc il va perdre sa boîte et sa place. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire, il faut bien avoir la compréhension d'un personnage qui maîtrise totalement la législation financière, qui ne s'est jamais fait prendre... pour les non-paiements d'impôts, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de compte à l'étranger et tout. Donc, c'est pour éviter de dire... Enfin, on a voulu le comparer à un raider, là, vous savez, les fonds BlackRock, etc., ou KKR, qui arrivent avec des paquets de milliards dans les poches, qui achètent une entreprise, qui la transforme, élimine le maximum de personnel, et puis disent, on a monté les résultats à des niveaux très très satisfaisants, c'est-à-dire qu'elle faisait 3% de bénéfices sur le chiffre d'affaires, maintenant on est arrivé à 15, c'est ce qu'on voulait, et on est content. Et puis, ils passent à une autre, mais donc c'est des gens qui n'ont pas de pratique professionnelle d'un métier, ce que Bolloré a toujours eu. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu chez Bolloré l'histoire du papier, parce qu'aujourd'hui, l'activité du papier continue, avec, j'ai parlé du papier Bible, et j'ai parlé du film très fin. Alors, vous ne savez pas, quand vous avez chez le boucher, ou qu'on vous fait emballer un steak dans un film plastique très fin, c'est une fabrication Bolloré. Et c'est un papier assez difficile à laver. Dès l'instant où vous avez la spécialité, vous en vendez beaucoup. Donc le film fin, le film très très fin, c'est une spécialité de papeterie très fine. Mais quand vous êtes aussi en position de monopole sur un marché comme ça, vous avez beaucoup de clients, puisque vous avez le monopole, et vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Mais vous avez un produit techniquement élaboré, que vous n'avez pas mis au point tout de suite. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'il y a derrière... Donc, M. Bolloré n'est pas un raider, comme on dit, R-A-I-D-E-S, c'est pas un monsieur qui achète et qui vend, c'est un monsieur qui construit son empire avec toujours quelque part des unités où on produit quelque chose. Que ces choses soient des livres, ou du film plastique, ou du papier à cigarette, c'est peu important. C'est-à-dire qu'il reste ce qu'il est, c'est-à-dire un industriel qui a un grand talent de manipulation des finances des autres. Mais pas plus. Mais il reste un industriel. Et quand il reste un industriel, et on a des témoignages là-dessus, c'est-à-dire quand il s'intéresse à une entreprise ou qu'il vient de la racheter, il s'est d'abord bien documenté sur la chose, et puis ensuite, il va voir. C'est-à-dire qu'il ne rachète pas une entreprise en regardant uniquement les comptes, il va dans les ateliers, il va dans les usines, il parle avec les gens, et il a une connaissance assez approfondie de ce qu'il vient d'acheter. Pour l'améliorer, pour gagner plus, c'est l'évidence, mais il ne fait pas, il n'arrive pas comme ça, comme un sauvage, en disant j'achète, je vais faire ce que je veux, etc. Non, non, il est beaucoup plus concret que ça n'en a l'air. Et à signaler d'ailleurs que tout ça, il le fait parce qu'il a une connaissance du terrain, il a une façon de travailler bien, bien particulière. Et on en arrive au moment où nous nous trouvons maintenant. Puisque je regarde tranquillement la montre, au moment où M. Bolloré se met à avoir mauvaise presse. Alors j'ai dit, il a eu mauvaise presse dans les milieux du journalisme, puisqu'il s'en est pris à des gros bonnets du journalisme, les dirigeants d'Antenne 2, les dirigeants d'autres Canal Plus. Bon, donc, mais en fait, on en arrive au moment où M. Bolloré, apparemment, se met à trop se mêler de politique. C'est là-dessus qu'il faut que nous nous éclaircissions dans les minutes qui nous restent à pas mal. Alors, il se mêle de politique depuis quand ? Alors effectivement, il se mêle de politique, en gros, depuis les élections présidentielles de 2022, c'est-à-dire au moment où il a décidé de prendre sa retraite. Il l'avait dit, je prendrai ma retraite quand j'ai 70 ans. Il a 70 ans au printemps 2022, et donc il a pris sa retraite, officiellement. Bon. Mais il a quand même un siège ici et là, enfin, il a quand même un bureau, il a quand même ses fils qui ont été mis à la tête des différentes sociétés du groupe, donc il n'est pas quand même tout à fait indépendant de ce qui s'y passe. Mais il se met à s'intéresser à la politique. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Monsieur Bolloré va se mettre à s'intéresser à Éric Zemmour. Étonnant. Donc, M. Bolloré, alors on va me dire, il supporte l'extrême droite ou une partie de l'extrême droite. Alors il a intérêt, donc il passe sur ses chaînes de télévision, il passe sur son journal, CNews, etc. Tout ça est connu, il passe chez lui, et puis autant de fois que nécessaire pour qu'on finisse par voir M. Zemmour tous les jours. Hein, bon. Alors ça produit un effet qu'on a vu, et c'est un effet qui n'est pas complètement pertinent, puisqu'en fait, M. Zemmour, malgré cet appui massif qui va durer des mois et des mois sur tous les moyens de diffusion de Bolloré, va arriver à 7% des voix au premier tour. C'est pas beaucoup, vu l'effort financier que ça a supposé avant. Et comparé aux chiffres de M. Bardella, c'est un peu faible. Hein, Bardella est trois fois au-dessus. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là qu'il faut raisonner politique et pas paniquer. C'est-à-dire que le mouvement de l'électorat vers l'extrême droite, il est réel. Il ne se passe pas qu'en France. Il est lié à un certain affaiblissement de la gauche. Il est lié aussi au fait que la gauche de gouvernement, comme nous l'avons vécu sous Mitterrand, sous Rocard, sous Jospin, la gauche de gouvernement n'a pas été très brillante et elle a plutôt laissé un mauvais souvenir dans les couches populaires. Ils ne sont pas beaucoup intéressés à nous. Alors, il reste des passages de la gauche au pouvoir en France. La retraite à 60 ans, ça, coup de chapeau à Mitterrand, mais pas grand-chose d'autre. Pour le reste, c'est plutôt la sécurité sociale qui s'affaiblit, les hôpitaux qui sont mal gérés ou qui n'ont pas assez de moyens. On n'a pas un très très bon bilan de la gauche, et donc la gauche a perdu son électorat populaire. Et donc cet électorat populaire, en partie, alors il y a une partie qui est allée vers l'abstention, et une partie de cet électorat populaire a dit « Ah ben, il y a des gens qui critiquent, ça va pas, on va aller vers ceux qui manifestent du mécontentement ». D'où Bardella et Marine. Et puis, dans cette expression d'un mécontentement, d'une espèce de nostalgie d'une gauche qui n'a pas été ce qu'on pouvait espérer. Alors, après, on pourrait beaucoup parler de la gauche. Je ne suis pas là pour faire ni sa critique définitive, ni son apologie. Mais il y a aussi des circonstances internationales, des traités, la pression de l'Union européenne, la pression de l'OTAN. Il y a toute une série de raisons. Mais là n'est pas le but de mon propos. Le but de mon propos, c'est de dire, effectivement, pour l'électorat qui pensait que la gauche était du côté des couches populaires, les résultats n'ont pas été très, 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 très probants. Et l'Europe y est pour beaucoup. C'est un autre aspect des choses, mais ça nécessiterait une autre émission. Et donc le basculement d'une partie de l'électorat, il y a une partie de l'électorat qui bascule dans l'abstention, ça on le sait, et puis l'autre partie qui va basculer du côté de ceux qui protestent. C'est pas bien, ça va pas, etc. Bon. Et là, il va y avoir une évolution qui est très, très intéressante à suivre, c'est-à-dire que Bolloré se vient à soutenir Zemmour parce qu'il s'aperçoit, ce qui est effectif et objectif, c'est-à-dire que le discours du Rassemblement national, plus le Rassemblement national s'approche du pouvoir, ressemble de plus en plus au discours de Macron. C'est-à-dire que les critiques que le Rassemblement national faisait il y a quelques années, du temps du père ou dans les débuts de Marine Le Pen, critiques sur l'Europe, critiques sur l'OTAN, qui étaient réelles, et donc ces critiques-là ont disparu. Et à part sur le thème de l'immigration, où là, l'écart entre la droite et l'extrême droite est très, 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 très peu, et très peu large, j'allais dire, hein, parce que Retailleau n'est pas au Rassemblement national, mais après tout, vu ce qu'il dit, il pourrait y être. Hein. Donc, l'écart des positions sur cette question-là est faible. Mais pour le reste, le Rassemblement national a affiché de plus en plus un discours qui est le même que celui des Macroniens, c'est-à-dire on s'acclimate de l'Union européenne, on s'acclimate de l'OTAN, on s'acclimate de tout ce qui se fait. Donc, on devient présentable. Alors je dis pas que le RN a changé. Je dis qu'il a changé de discours et que son discours, dans la mesure où il a abandonné tout ce qui était critique radicale, sortir de l'Europe, ils l'ont dit à un moment donné, c'est un discours qui ne tient plus du tout. Alors que c'est une analyse qui mérite d'être poursuivie et qui a été portée jusqu'en 2005 par le référendum de la population française qui a dit qu'elle ne voulait pas des règles de l'Europe telles que l'Europe l'a lui proposée. Rappelez-vous de ça, ça c'est un phénomène très très important. Et là, le RN de l'époque était du côté des opposants. Il n'était pas seul, heureusement, puisque le référendum a donné plus de 50%, mais il était du bon côté. Et depuis, il a glissé, il s'est montré plus propre, puis on a mis devant un Bardella qui est inodore, incolore et sans saveur, donc il peut rassurer tout le monde parce qu'il tient des propos bien bien polis, bien honnêtes, pas un gros mot, pas d'horreur comme en a dit le père Le Pen, etc. Bon, et donc ce qui se passe, c'est que dans ce mouvement de l'extrême droite, la position de Zemmour est une position assez différente de la position du Rassemblement National. Et je pense que c'est ça qui a été joué par Bolloré, c'est-à-dire dire qu'il y a autre chose à dire que ce parti qui est devenu un parti, une espèce de substitut possible à la politique macronienne. C'est ça qui explique, je pense, qui explique le fait qu'il ait joué cette carte-là. Mais au fond, s'il a joué cette carte, il a raté son coup. Parce que 7% des voix au lieu de 21% pour l'autre, c'est pas très très brillant malgré les énormes moyens médiatiques qu'il a mis en œuvre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Ça veut dire pour la suite qu'effectivement, M. Bolloré s'est mis sur une barque bizarre, et ça explique aussi qu'il soit attaqué maintenant pour dire qu'il est celui qui, politiquement, soutient le concurrent le plus à droite, plus à l'extrême droite, puisque manifestement, dans ses discours, Zemmour est plus à l'extrême droite que ne l'est Bardella dans ses propres discours. C'est ça qui se joue. Et qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre un phénomène dont on a été témoin ces dernières semaines. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, qui n'a pas été bien expliqué et qui mérite de l'être, c'est que M. Vincent Bolloré, qui a mis ses enfants à la tête des différents morceaux de son empire, il est en train de découper son empire en plusieurs morceaux, et chacun des morceaux sera indépendant l'un de l'autre, c'est ça qu'il faut voir. Il a tout préparé au niveau de la mécanique, suppression des filiales, suppression de toute une série de petites entreprises qui étaient en sa propriété. Et au fond, il est en train de préparer un grand déménagement, c'est-à-dire qu'il y a une de ses activités qui va partir à Amsterdam, aux Pays-Bas, c'est l'activité publicitaire autour d'Avas et d'un de ses fils. Il y a une autre activité qui va rester en France, une autre qui va partir à Londres. Et donc, en fait, ne va échapper au déménagement que l'activité industrielle qui est restée dans les usines relatives au papier dans la région donc de Quimper. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce découpage qui est prévu suscite l'opposition d'un certain nombre de gens, parce qu'en fait, c'est la bourse des Pays-Bas où va être coté le titre d'Avas, donc d'une partie du groupe Bolloré. C'est à la Bourse de Londres que va être coté une autre partie de l'Empire Bolloré. Et donc la place financière de Paris se trouve affaiblie d'autant. C'est-à-dire qu'il y a une grosse fortune qui est en train de partir à l'étranger. Et donc ce qu'il faut voir, et c'est en cours, puisqu'il y a une demande, donc c'est un peu compliqué du point de vue boursier, mais il y a une demande de rachat d'options. Tous les gens qui ont des actions Vivendi sont invités à les rendre pour être compensés financièrement pour que ce partage de l'Empire Bolloré en plusieurs morceaux, en trois morceaux en gros, se fasse en commune mesure. Donc ce qu'il y a, et ce à quoi on est confronté, et ça je le dis puisque Sidi était présent à la manifestation qui a eu lieu donc dimanche dernier à Marseille, c'est-à-dire qu'en même temps où on a des gens qui protestent en disant « Bolloré soutient un extrême droite qui est Éric Zemmour ». Et c'est vrai, il l'a fait. Mais en même temps, Bolloré est en train de s'affronter, ça c'est le mécanisme boursier dont on ne vous parle pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent éviter que Bolloré s'en aille de France, enfin un tiers de Bolloré, ou deux tiers plus s'en vont de France, et ça ils ne le veulent pas parce qu'ils voudraient que ça reste. Et qu'est-ce qui se joue? Vous allez voir que tout ça se finit très curieusement autour de Marseille. Qu'est-ce qui se joue? L'influence médiatique de Bolloré à travers tout ce qu'il a, donc Canal, Europe 1, CNews, etc., vous connaissez tout ça, je n'ai pas fait la liste, mais vous la connaissez, bon, elle est facile à trouver, c'est une influence dans le milieu médiatique. Qu'est-ce qui peut arriver ? Il faut trouver, pour Macron, c'est ça la question, une influence médiatique qui fait contrepoids à l'influence de Bolloré. Et cette influence médiatique, elle existe aujourd'hui, puisque vous savez, puisque vous habitez Marseille en particulier, vous savez qu'aujourd'hui, l'influence médiatique de M. Bolloré, elle est en train d'être mise en faux par un autre capitaliste bourgeois qui a fait les mêmes choses que lui, c'est-à-dire qui a grossi, qui s'appelle M. Rodolphe Saadé. Et M. Rodolphe Saadé, vous le savez, a ouvert donc une filiale qui s'occupe de médias, propriétaire de La Provence, propriétaire du quotidien économique La Tribune, va en racheter d'autres. Et donc ce qui se joue, c'est qu'on a aujourd'hui deux groupes de rapaces de rapaces de la finance, M. Vincent Bolloré d'un côté et M. Rodolphe Saadé, l'un qui joue la carte Macron, manifestement, donc le groupe, la CMA, c'est la carte Macron, c'est tout à fait clair. Puisque, à telle enseigne que chaque fois que Macron vient à Marseille, il était encore aujourd'hui ici, il va voir la CMA. Donc, on a deux groupes donc, qui font le même travail, qui possèdent des médias. Et donc, le groupe CMA est un peu en retard sur Bolloré. Il a démarré assez récemment son activité donc, médiatique, d'influence. Et je signale que dans le siège des médias CMA, qui s'est ouvert il y a 4 ou 5 semaines, il est venu à l'inauguration, Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Donc le gouvernement de Macron est venu donner un coup de chapeau au groupe médiatique qui va lui faire sa propagande électorale. C'est très, très important. Et donc, ce qu'on a à faire, c'est que ce qu'on voit à travers les manifestations, les initiatives qui ont été prises la semaine dernière, c'est en fait, ça casse ce jeu, c'est-à-dire qu'on a au niveau de l'Élysée quelqu'un qui ne veut pas lâcher le pouvoir, et qu'on ne sait pas s'il mettra quelqu'un à sa place ou s'il fera réformer la Constitution dans les 2 années qui lui restent. Mais de toute façon, il a un groupe. Et de l'autre côté, il y a un groupe qui a plutôt joué sur l'extrême droite, une extrême droite qui n'a pas de chance, puisqu'au fond, Zemmour n'arrivera à rien. Avec 7% des voix, on va nulle part. Et il est tellement faible en politique qu'il faut savoir qu'aux élections européennes qui ont déclenché la dissolution, etc., le parti de M. Zemmour a eu une élue. Une seule élue. C'est-à-dire un résultat lamentable au niveau électoral. Donc ça ne marche pas, l'opération Zemmour. Et donc M. Bolloré s'est mis là-dedans. Mais en fait, il a maintenant la vraie opposition à Bolloré. C'est bien qu'il y ait des militants comme nous qui disent « c'est pas bien, Bolloré soutient un mec d'extrême droite ». Bon, il ne faut pas le faire. Mais la vraie opposition à Bolloré, c'est l'autre groupe qui fait le même travail que lui pour Macron et qui, lui, est en pleine croissance. C'est le groupe de la CMA de monsieur Rodolphe Saadé. Et il faut savoir, et c'est là que ça devient cocasse, qu'à un moment donné... Quand M. Bolloré a voulu se séparer, sachant que l'Afrique n'était plus très sûre et que les Français y étaient, les intérêts capitalistes français y étaient de plus en plus mal vus, qu'est-ce qu'il a fait, M. Bolloré ? Eh bien, il a vendu ses activités de transport à la CMA. Et donc, c'est aujourd'hui la CMA ou la MSC, mais enfin voilà, qui assure le transport des produits que les filiales de M. Bolloré assuraient sur le sol des anciennes colonies françaises. Voilà. Donc là aussi, c'est un tournant. Et donc, c'est pour ça que M. Bolloré maintenant dit moi, mes affaires, et donc les affaires que je confie à mes fils, je les confie à des endroits où on les laissera tranquilles et où je ne serai pas dépendant de l'État français. Alors, ça veut dire qu'en même temps, il est en train de se rendre compte que l'État colonial français est en train de s'effondrer. C'est ça que ça veut dire. Plus de business en Afrique. En Afrique, il y a la concurrence, il y a d'autres gens. Les patrons des régimes africains, donc les Ouattara, les Issoufou, etc., sont tous tombés. Alpha Condé est tombé en Guinée. Il n'a plus personne sur lequel s'appuyer. Donc, il dit, c'est terminé. La période coloniale, pour moi, et les affaires, le business colonial, c'est foutu. C'est foutu. Donc, je fais autre chose. Je fais du médiatique, je fais de la publicité. J'en fais aux Pays-Bas, j'en ferai en Grande-Bretagne, j'en fais un peu en France. C'est là l'avenir de mon entreprise capitaliste. Et c'est là que, peut-être, d'une certaine façon, il réalise ce qu'il affiche comme son rêve en disant « Je veux laisser un bel héritage à mes fils. Ça va ». ça va, parce que chacun de ses fils déjà, alors c'est des fils qu'il faut le voir, ils ont la quarantaine, ils sont déjà à la tête de plusieurs dizaines de milliards chacun. Hein. Donc ils n'auront pas à se plaindre de leur papa, mais leur papa leur a fait profiter de l'expérience qu'il a, donc de la colonisation française qui est terminée. Il n'y a plus rien à gagner pour une entreprise capitaliste française. Tout le monde se jette sur l'Afrique, donc la France n'a pas de poids particulier. Il n'y a plus de ministre des colonies, il n'y a plus de Focard, il n'y a plus de Roussin, il n'y a plus de fils Mitterrand. Tout ça, c'est terminé, ça ne marche plus du tout. Et on le voit dans les résultats de la politique africaine de Macron, c'est catastrophique. Donc pour un entrepreneur, une boîte capitaliste qui veut gagner de l'argent en Afrique, s'allier avec Macron, c'est du temps perdu. C'est même avoir le plus mauvais publicitaire possible. Voilà, en gros, la situation que je voulais vous dépeindre dans le temps qui me restait. Donc, bien comprendre qu'on a affaire à un capitaliste qui a profité de sa position d'héritier d'une couche capitaliste, qui a bien géré ses affaires en tant que capitaliste, c'est-à-dire que là où je perds de l'argent, je me débarrasse ou je transforme l'entreprise pour qu'elle en gagne. Là où je peux en gagner, j'y vais. J'apprends tous les métiers. J'apprends le transport maritime, j'apprends le transport routier, j'apprends la fabrication de ceci. J'apprends et je gagne de l'argent là où je suis. Et puis, s'apercevoir que la France ne peut plus rien pour lui, ou que la France est tellement faible, et ça on le sait, la crise politique que nous traversons, elle impacte des gens comme ça, et moi j'attends rien, le gouvernement français ne peut pas m'aider, parce que le gouvernement français, plus personne ne le prend au sérieux. Hein, on a vu, puisque on est mercredi soir, hier, M. Macron s'est fait moucher très très méchamment par le vice-président des États-Unis, mais très très méchamment. Hein. Bon, c'est, donc et voilà, donc un échec après l'autre, effectivement. Le monsieur qui dit, moi je m'appuyais sur la République française, elle avait les colonistes et bien, on m'aidait quand j'avais un coup à faire, etc. Là il dit, j'ai plus rien, j'ai plus d'interlocuteur et j'ai rien à faire avec Macron. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas, je reviens à l'élection présidentielle de 2022, ça ne veut pas dire que monsieur Bolloré n'a pas voté Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est même tout à fait possible qu'il ait voté Macron, mais il n'a pas fait campagne pour Macron, parce qu'il ne croit pas en Macron. Seulement, il se dit, bon, il vaut mieux lui que les autres, et je peux encore discuter. D'ailleurs, depuis, M. Macron l'a invité à l'Élysée. Donc, ça veut dire qu'ils ont peut-être des choses à discuter ensemble pour la suite des événements. Peut-être Macron s'en dit, ne soyez pas si méchant avec moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, hein? Voilà. Alors, ça donne... Enfin, c'est un peu triste, je vois Sidi qui rit de l'autre côté, mais c'est comme ça que fonctionne la politique, c'est-à-dire que, hélas, et il n'y a pas beaucoup de partis politiques en France qui nous expliquent, on nous fait croire qu'au Parlement tout se discute et tout, non, c'est pas au Parlement que ça se discute, le Parlement, regardez, on le tourne en ridicule tous les matins, enfin, tous les trois mois, 49-3, 49-3, ça veut dire, vous ne servez à rien, hein. Alors agitez-vous, criez que c'est pas bien, mais vous ne servez à rien. En plus, quand vous avez des lois à voter, la plupart des lois, on sait que 60% des textes qui arrivent à l'Assemblée nationale française sont des lois bruxelloises de l'Union européenne qu'on applique en France. Bon, donc le travail parlementaire, il a beaucoup perdu de son sens. Donc les parlements, les groupes politiques français ne sont pas à l'échelle de la crise politique que traverse notre pays. Alors M. Bolloré, lui, en tant que capitaliste, il a compris, bon, je travaille ailleurs, je mets un fils à Amsterdam, je mets un autre fils à Londres, là, ils feront leur business, et puis ils continueront, puis ils sont bons, ils ont de l'argent, ils ont les moyens, ça va. La France, j'ai rien à en attendre. Alors, c'est pas grave, j'allais dire, si les milliardaires s'intéressent pas à la France, il reste aux Français à s'intéresser à la France. Mais pour l'instant, les Français ont une voix encore assez faible. Il faudrait qu'ils comprennent bien que là, il se joue des gros, gros enjeux pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos petits-enfants, et que pour l'instant, il n'y a pas grand monde de sensé, en dehors de ces gens qui ont leurs problèmes de capitaux, de rentabilité, ou d'image, comme Macron qui veut toujours faire croire qu'il est en train de régler l'avenir du monde. Non, ça ne marche pas. Donc il y a un vrai besoin, la crise politique, elle est là, c'est-à-dire que une grande majorité, je pense, du peuple français attend d'avoir une expression politique où on parle vraiment de ses problèmes et où la France se défende avec les moyens qu'elle a de le faire et de ne pas être entre les mains, soit à la fois d'un, On ne peut même pas dire que Bolloré est un aventurier. Il a profité au maximum du système colonial et du système de la République bourgeoise. C'est tout. Il n'a rien fait d'autre. Mais si cette République bourgeoise n'avait pas existé, ben il n'aurait rien fait. Mais elle existait, et je dis, et ce n'est pas par hasard qu'il a rencontré et que sont venus lui rendre visite tous les présidents de la République depuis qu'il est tout petit. Ça s'en dit long. Ça en dit long. Il était chez lui, il était dans la classe dirigeante. La classe dirigeante, elle pouvait s'appeler Mitterrand, elle pouvait s'appeler Rocard, elle pouvait s'appeler Balladur. Il était toujours à l'aise, il était toujours chez lui. Il était allé dans cette petite couche, là, les fameux 0,1 pour... Enfin, le 1 pour 1000 ou le 1 pour 10 000 qui logent à la Villa Montmorency. C'était là qu'ils étaient tous. Et rendez-vous bien compte aussi ce que ça veut dire. Il y a des gens de la culture, mais vous avez aussi Depardieu. Vous avez aussi des gens comme ça. Et c'est ça, ce petit monde dont on nous fait, enfin, dont on nous tresse, dont on nous parle beaucoup, et qui est en fait pas si intéressant que ça. Depardieu, c'est un personnage méprisable. D'autres sont méprisables aussi. Bon, ils ont l'argent, va chez eux. Bon, c'est ça qu'il faut avoir. Voilà ce que je vous ai dit, je voulais dire pour synthétiser et pour sortir de cette aventure difficile dans laquelle je m'étais embarqué, mais bien faire comprendre qu'il y a derrière tout ce qui se passe, derrière Bolloré, une sociologie politique, un mode de fonctionnement de la société française, qui a été, alors je le dis parce que c'est quand même une référence sociologique intéressante, vous avez tous entendu parler de Madame Pinson-Charlot et de son mari, qui ont fait des études sur les riches français, et effectivement, ils vivent entre eux, mais ils vivent entre eux. Bon, on peut dire qu'ils restent entre eux. Le problème, c'est que c'est eux qui organisent la vie du pays et de tous. C'est ça qu'on ne sait pas. Et ce n'est pas au Parlement que ça se joue ailleurs. Quand ça arrive au Parlement, l'affaire est déjà pliée. Voilà. Merci, Sidi. On va passer une petite musique pour parler de la France coloniale, hein, que Sidi connaissait, qui s'appelle « La pompe Afrique ». On trouvera le mois prochain.
Je connais tous les moniteurs, richissimes, archi-corrupteurs. Y a des armées, des œuvrés qui méritent qu'on leur tienne compagnie. Nous, on fait la guerre en musique, on fait chanter la République.
Quand ça fait que l'Immaculé a des répètes trop meurtriers, pendant que l'Angola se viole,
nous, on fait l'amour dans le pétrole.
Guinée, Togo, Bissau, Biafra, on est mouillé jusqu'au Rwanda. On a dopé vos dictateurs.
Vous voyez que la France a du cœur.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous serez avec nous. Je vous emmène dans de nouvelles colonies à l'africaine.
Bébé. on écoulait notre vache folle sur le marché du Nigeria. À 2 francs le kilo, c'est des vols, je pourrais partir au Bahama. Mon banquier me trouve pâle, mon compte a besoin de soleil. Faut que je trouve un paradis fiscal pour détendre les orteils.
Paradis revu planétaire, pour portefeuille de mercenaires,
pour autre pilleur de l'Afrique ou pour fumier démocratique.
Elles ont belle gueule nos colonies.
Bizarre elf, c'est fait griller.
Il faut balancer la politique africaine de l'Elysée.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous serez avec nous. Je vous emmène dans de nouvelles colonies à l'africaine. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su